Morning Edition from NPR News.
MCT Sandin the House.
Halliam Radio Rosana Piparis.
Produce ghetto in la radio.
Faut pas changer de radio.
France Inter, le 18-20. Christelle Rebière.
L'autre guerre ce soir, celle entre le Hezbollah libanais et Israël. Après l'attaque de la milice chiite libanaise il y a une semaine, Israël a choisi la réplique de masse dans le sud, l'est du Liban et même à Beyrouth, jetant des centaines de milliers de personnes à la rue et déstabilisant le pays, le Liban qui semble vivre un cauchemar sans fin. On va y venir avec notre invité. La guerre, quelle guerre ? Les pays du Golfe, eux, sont dans le déni, tandis que Washington la raconte en mode jeu vidéo. Louise Baudet remettra le monde à l'envers. Endroit sur ces récits officiels de guerre. Le reportage, lui, nous emmène à Conakry, en Guinée, dans un quartier de pêcheurs, qui voit sa jeunesse prendre le chemin de l'exil au péril de sa vie.
Ici, les diplômés ne trouvent pas de travail. C'est ce qui les amène vers le chemin de la mort. J'appelle l'État à les aider et à aider aussi nos enfants à l'étranger.
Un reportage émouvant signé Agnès Fèvre. Une autre guerre passée sous les radars, celle-là, entre le Pakistan et l'Afghanistan. Et Guillaume Audat regardera aussi au-dessus de nos têtes et suivra un astéroïde. Enfin, savez-vous ce que veut dire Zagat ? Eh bien, ça se gâte. Cette expression algérienne est aussi le titre de l'une des chansons du dernier album de la franco-algérienne Souad Massi. Rendez-vous dans la BO du monde tout à l'heure. Voilà le programme. C'est le moment de faire une première escale.
C'est injuste pour nous d'être ainsi déplacés à répétition. Une telle plaie n'est pas censée se rouvrir autant. Nous avons trop souvent payé le prix de causes qui ne concernaient pas le Liban.
Comme cette jeune femme qui habitait à Tyr, près de 500 000 personnes ont été déplacées au Liban ces derniers jours. Une semaine qu'elle fuit la guerre, le Hezbollah a tiré des drones et des missiles sur Israël. Pour marquer son soutien à l'Iran, Israël s'est lancé dans une vaste opération militaire. Près de 400 morts, les déplacés, eux, dorment où ils peuvent, dans leurs voitures sous des tentes, parfois dans des anciens abattoirs réaménagés. Hier, Beyrouth a été frappé au cœur. Le fameux hôtel Ramada, dans le quartier touristique de Raouché, a été pris pour cible. Israël affirme avoir tué 5 membres des gardiens de la Révolution. La banlieue sud de la capitale est encore ciblée aujourd'hui, sans parler de l'offensive terrestre au sud et à l'est du pays. Ces frappes rouvrent des plaies et déstabilisent. Les élections législatives seront reportées finalement de 2 ans, alors que le Liban est devenu un autre théâtre du conflit pour Israël. Bonsoir Hassan Salamé.
Bonsoir.
Merci infiniment d'être avec nous en direct de Beyrouth. Vous êtes le ministre de la Culture libanais. Votre pays est entré dans un nouveau cycle de violence. Comment le vivez-vous, j'ai envie de dire personnellement, dans votre chair ?
Personnellement, je le vis comme d'abord un responsable. Je dois m'occuper de trouver une issue à cette guerre. Je dois aider à la mise en place d'un système de secours aux personnes déplacées. Et je dois garder le moral parce que pour le moment, il n'y a pas de lumière au bout du tunnel. Je ne vois même pas de tunnel à l'heure actuelle pour sortir de cette nouvelle confrontation.
Et pourtant, cet autre front pour Israël, c'est un peu le conflit dans le conflit. Est-ce que vous vous sentez aujourd'hui un peu oublié finalement ?
C'est comme le théâtre de l'Odéon, vous savez, à Paris. Il y a la grande salle. Et il y a le théâtre de poche. Nous, on est le théâtre de poche. Donc, c'est pas qu'on est entièrement autonome par rapport au théâtre central, mais le théâtre de poche a une programmation qui est autonome. Donc, nous regardons, certes, ce que nous pouvons faire pour ce pays et comment mettre fin à ce conflit qu'on n'a pas voulu, qui nous a été imposé. Je veux dire, le gouvernement ne l'a pas voulu. Et une bonne partie de la population ne l'a pas voulu. On a été mis un peu devant le fait accompli par l'action du Hezbollah dans la nuit de dimanche à lundi dernier.
Oui.
Mais on doit garder aussi les yeux rivés sur le grand théâtre, le théâtre central qui se trouve dans le Golfe. Parce qu'on sait pertinemment que la solution à ce petit conflit dépend énormément de ce qui va arriver sur la scène centrale, sur le grand conflit dans le Golfe.
On va y venir, mais j'aimerais qu'on commence par le Hezbollah, qui effectivement a entraîné le Liban dans cette nouvelle guerre, et qui vient d'ailleurs de prêter allégeance au nouveau guide, le fils de Khamenei. Votre président, Joseph Aoun, a haussé le ton aujourd'hui, accusant le Hezbollah de vouloir provoquer l'effondrement du Liban. C'est aussi votre avis ?
Si c'est l'avis du président, c'est notre avis à nous tous. Je veux dire, faire partir un gouvernement qui est, comment dirais-je, relativement, pour une fois, intégré dans sa vie. Et il y a eu des gouvernements au Liban qui n'en étaient pas dans le passé parce qu'ils représentaient les différents partis qui se bagarraient à l'intérieur du cabinet. Tel n'est pas le cas aujourd'hui. Nous avons une ligne relativement commune avec le président et le premier ministre. Mmh. Et donc, je suis d'accord avec le président quand il dit ce que vous avez cité.
Quand il parlait de l'effondrement. Dans une tribune publiée dans le quotidien Le Monde, ici en France, aujourd'hui, la romancière et essayiste libanaise Dominique Hédé dénonce un mouvement, en parlant du Hezbollah, qui prend la population en otage. Le pays n'est pas son projet. Il est traité en soute à bagages que l'on déplace, entasse et vide mécaniquement des existences réduites à l'état de valise. Les mots sont puissants. Est-ce que vous souscrivez ?
Bah, écoutez, le langage des romanciers n'est pas celui des ministres, mais je ne suis pas contre ce qu'a dit Dominique, qui a une éloquence toute particulière. Mais je voudrais dire autre chose. Je voudrais dire que le gouvernement s'en est chargé. Dès lundi matin, quelques heures après le début des combats, le gouvernement s'est réuni. Il a déclaré illégal toutes les actions militaires et sécuritaires que mènerait le Hezbollah. On est récidivé jeudi en mettant hors la loi et en disant qu'on allait transférer en Iran tout membre des Pasdaran iraniens qui se trouvaient sur le sol libanais. Et très vite, une vingtaine est partie via Yerevan en Arménie, une autre partie est partie via Istanbul en Turquie. Et hier, il y a eu un avion affrété, un avion russe affrété, qui a emporté en Iran plusieurs dizaines de citoyens iraniens qui étaient plus ou moins liés au Pasdaran. Donc le gouvernement n'assiste pas passivement à cette énième confrontation entre le Hezbollah et Israël. Il fait ce qu'il pense être son devoir.
Oui, il n'est pas passif, votre gouvernement, mais quand même, ça paraît être presque insuffisant par rapport à tout ce qu'il faudrait faire, d'autant qu'Israël exige de votre gouvernement de désarmer carrément le Hezbollah. Emmanuel Macron s'est entretenu de nouveau ce matin avec Benjamin Netanyahou. Le Premier ministre israélien reste sur une ligne dure. Il menace de désarmer lui-même le Hezbollah si l'armée libanaise n'y arrive pas.
Bon, j'ai déjà entendu ce discours pendant les 15 mois que je suis dans ce gouvernement. Mais chaque fois, c'est avec un ton un peu plus ferme, mais c'est à peu près le même contenu. Le problème, c'est que le gouvernement a pris une décision historique le 5 août dernier de désarmer le Hezbollah. On y a procédé. Une bonne partie du territoire libanais a été libérée des armes du Hezbollah, qui ont été confisquées ou ailleurs. Ou détruites d'ailleurs sur l'endroit où ils étaient. Mais est-ce que les Israéliens nous ont aidés dans cette tâche ? Eh bien non. Les Israéliens, loin de prendre cette action du gouvernement libanais en considération, ont continué à travailler à leur tête, violant la souveraineté libanaise plusieurs fois par jour, entraînant des nouveaux prisonniers libanais et occupant des parties du territoire libanais alors même que le cessez-le-feu l'avait interdit de le faire. Et ce qui a embarrassé énormément, puisqu'aux yeux de la population, on est en train de dire au Hezbollah qu'il n'a pas le droit d'utiliser ses armes, mais de l'autre côté, les Israéliens ne nous laissent pas la place pour qu'on puisse exécuter nos propres décisions. C'est pourquoi le pays est pris en tenaille entre une milice qui n'agit qu'à sa tête, qui reçoit ses ordres d'ailleurs que du pays, qui perdent une partie de son arsenal, une partie uniquement de son arsenal, et des Israéliens qui sont extrêmement égotistes dans leur manière de traiter les affaires libanaises, pas politiques, mais genre des ordres combinatoires à exécuter. Ça passe aussi mal que les aventures dangereuses de Hezbollah.
Et tout ça au mépris du droit international. Hassan Salamé, vous avez été, entre autres, le conseiller spécial de Kofi Annan lorsqu'il était secrétaire général des Nations Unies. J'imagine que ça doit vous blesser tout particulièrement, ce mépris du droit international en ce moment, qui n'est pas seulement de la part d'Israël, on parle beaucoup des États-Unis. Oui.
Il est vrai que j'ai écrit un livre il y a 2-3 ans pour dire que c'est ça qui est en train d'arriver. C'est-à-dire que le droit et les normes internationales sont en train d'être bafouées par les grandes puissances et par les puissances moyennes, sans que personne ne leur cherche noise. Eh bien, je regrette que j'ai eu tort dans ce livre, je regrette que j'ai dit ce qui allait arriver, et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Le Moyen-Orient est, hélas, l'endroit où cette espèce d'ignorance, d'indifférence à l'endroit du droit international, et notamment du droit international humanitaire, atteint des proportions absolument impossibles à accepter.
La France va, dit-elle, se mobiliser pour un cessez-le-feu. L'Europe, par la voix de Kaya Kallas, la chef de la diplomatie, affirme ce soir qu'un cessez-le-feu, c'est la meilleure chance d'éviter un chaos. Est-ce que vous croyez que c'est encore possible ?
J'ai trouvé les Européens un peu timorés les derniers temps. Je ne les ai pas vus très vocaux sur cette affaire. J'ai vu des Européens un peu plus intéressés par la stabilité du Proche-Orient. Et là, je ne sais pas ce qui les retient de dire leur mot. Parce qu'avec les Américains, nous avons un vrai problème. Ils sont belligérants sur le théâtre principal, donc on ne peut pas les attendre comme médiateurs sur notre domaine. Bon, la France a tenté une opération. Elle a jeté quelques idées sur la table. On est en train de les examiner. Nous acceptons plusieurs des idées que M. Macron nous a communiquées. Par exemple, le retour au mécanisme qui avait été mis en place lors des arrangements de sécurité après la dernière confrontation de 2024, l'année 2024, la possibilité d'engager une négociation entre le Liban et Israël, dont le lieu, nous sommes ouverts sur le lieu, sur les objectifs, sur le niveau de cette négociation. L'idée qu'un cessez-le-feu peut être établi en vue d'un accord de sécurité entre les deux pays. Donc il y a des idées qui sont en train de circuler, mais jusqu'ici il n'y a que la France qui les a portées. J'aimerais voir beaucoup plus les Européens engagés dans cette affaire, puisque sur le théâtre principal, ce sont les Américains qui sont les principaux acteurs de la guerre qui est menée aujourd'hui contre l'Iran. L'Europe a un champ sur l'affaire libanaise qu'elle ne remplit pas et qu'elle pourrait bien remplir.
Et les pays arabes, on ne les voit pas vraiment voler à votre secours non plus en ce qui concerne les 500 000 personnes déplacées dans votre pays sur une population de près de 6 millions d'habitants. C'est énorme.
Nous sommes près de 700 000, dont 120 000 sont dans des refuges qu'on leur a arrangés tout au long de la semaine dernière. Et il y a à peu près 5 fois ce chiffre qui sont dans des appartements, dans des hôtels, etc. Donc nous avons un défi humanitaire réel et qui est en train de grandir puisque le nombre de déplacés ne cesse de grossir de jour en jour. Les pays arabes, d'ordinaire, après chacune de ces confrontations, car on en a eu des confrontations de ce genre en 1996, en 2006, encore en 2024, etc., les pays arabes étaient appelés à la rescousse pour reconstruire et pour aider à l'humanitaire. Il se trouve que les pays riches arabes sont aujourd'hui visés par l'activité guerrière iranienne et doivent s'occuper d'abord de se défendre eux-mêmes. Pratiquement, les 6 pays du Conseil de coopération du Golfe ont été visés, pas pratiquement, tous ont été visés par des attaques iraniennes au cours des dernières... Les Émirats arabes unis ont reçu plus de drones qu'Israël lui-même. Donc, il y a une guerre qui occupe pratiquement 14 pays, qui est le théâtre principal de la guerre. Et donc, j'allais dire, c'est logique, mais c'est triste pour moi de le dire, mais c'est un peu logique que ces pays s'occupent d'abord... des problèmes qui les visent directement.
Une dernière question, Hassan Salamé. Quel est votre espoir ce soir ?
Mon espoir, c'est que se mette en place une vraie dynamique diplomatique pour nous sortir de cette énième, évitable guerre entre le Hezbollah et Israël. C'est une guerre qui fait beaucoup de mal, dont l'issue ne peut pas être uniquement militaire. Et donc une initiative diplomatique qui ouvrirait le champ de la négociation, ce pourquoi le Liban est aujourd'hui prêt et ce que j'espère aujourd'hui.
Donc il faut négocier, c'est ce que demande aussi votre président Joseph Aoun ce soir. Merci infiniment Hassan Salamé d'avoir été avec nous en direct de Beyrouth. Je rappelle que vous êtes le ministre de la Culture du Liban. À suivre, Le Monde à l'endroit, Louise Baudet.
avec les monarchies du Golfe qui minimisent la guerre et Trump qui la raconte à sa façon, à la façon d'un jeu vidéo.
Et ce sera juste après ça. José González, Perfect Storm, extrait de son album qui sortira à la fin du mois. Le monde à l'endroit.
How dare you?
The world has changed.
Christelle Rebière. Le 18-20.
Louise Baudet, minimisée ou glorifiée, pourquoi la guerre au Proche-Orient est aussi une affaire de récit et des moyens de le contrôler.
Oui, cachez-moi cette guerre que je ne saurais voir. Ça se passe au Qatar, l'une des monarchies du Golfe ciblée par l'Iran. Le Qatar où plus de 300 personnes ont été arrêtées ces derniers jours pour publication d'images et d'informations dites trompeuses, coupables d'avoir relaté des frappes pourtant bien réelles. Une pluie de drones et de missiles s'abat quotidiennement sur des aéroports, des bases militaires, des infrastructures énergétiques et des zones résidentielles des monarchies du Golfe. Ces mêmes monarchies qui ont fait de la sécurité et de la stabilité le moteur de leur rayonnement économique. Cherchez l'erreur. À Bahreïn, au Koweït, plusieurs arrestations ont également eu lieu, pendant qu'en Arabie Saoudite et dans les Émirats Arabes Unis, les mises en garde sont quotidiennes. Interdiction de partager des rumeurs, des informations erronées ou tout contenu qui contredirait les annonces officielle ou qui pourrait semer la panique.
Contrôler le récit en temps de guerre, évidemment, c'est un classique.
Oui, c'est même vieux comme le monde. Propagande d'hier devenue contrôle du narratif. Une mécanique qui ne change pas de nature, mais d'échelle, démultipliée à l'ère du numérique. Prenez Dubaï, paradis des influenceurs, ville réputée la plus sûre du monde. Une marque que rien ne doit venir écorner. Tout est donc fait pour rassurer, y compris ce dîner du président Mohamed Ben Zayed dans le plus grand centre commercial de Dubaï, 24 heures après les premières alertes, ou comment minimiser les effets de la guerre pour conserver la confiance des investisseurs et des résidents étrangers. Les frappes iraniennes sur les Émirats sont pourtant loin d'être indolores. Bilan pour l'heure, 4 morts et 117 blessés.
La guerre, on la cache donc, ou au contraire, on la montre à la façon d'un jeu vidéo.
Oui, spécialité cette fois de la Maison Blanche qui, pour vanter les bombardements américains en Iran, balance sur ses réseaux des dizaines de vidéos reprenant les codes des jeux de guerre les plus célèbres, Call of Duty ou GTA, avec bande-son entraînante, mêlant aussi des images réelles, vols de bombardiers, explosions, tirs de missiles, à des extraits de Superman, Top Gun, Braveheart ou Star Wars. En 40 secondes chrono, la bande-annonce coche toutes les cases du blockbuster blockbusters hollywoodiens et des réseaux sociaux. Puissance technologique, efficacité, choc, viralité. Ou comment montrer une guerre déréalisée pour ne pas avoir à l'expliquer.
Car c'est tout le paradoxe, Louise, la guerre est mise en scène, mais les buts de guerre de Donald Trump ne sont pas clairs.
Et non, cette gamification, elle ne permet pas seulement de rendre le conflit moins effrayant, elle occulte aussi surtout la question première qui est le pourquoi de cette guerre. Alors que Donald Trump a construit sa carrière politique sur le refus des guerres sans fin, faute de trouver des arguments convaincants, le président américain propose un spectacle, espérant faire du contrôle du récit une arme décisive dans la guerre intérieure qui s'est engagée à quelques mois des élections de mi-mandat. Pendant ce temps, les victimes se comptent déjà par centaines en Iran et les premiers cercueils de soldats sont de retour sur le sol américain. Comme le rappelle écœuré l'archevêque de Chicago, la guerre en Iran est une vraie guerre avec de vraies morts et de vraies souffrances.
Merci Louise, à demain. Le reportage d'Un jour dans le monde nous emmène à Conakry. Les Guinéens étaient la deuxième nationalité africaine à demander l'asile en France en 2025, la première l'année précédente. Si le renforcement des contrôles sur les côtes sénégalaises et mauritaniennes ne freine pas leur projet de migration, ils multiplient les risques. Bonfi, un quartier de pêcheurs très populaire de Conakry, en paye le prix fort. Sur les 36 passagers guinéens d'une pirogue ayant fait naufrage en mai 2024, 16 venaient de là. 6 autres jeunes sont morts en mer en novembre dernier en cherchant à rallier les îles Canaries. De nombreux autres sont portés disparus. Pour leur famille, l'attente vire au désarroi. Le reste, c'est Agnès Fèvre qui raconte.
Un dédale de ruelles donnant sur des cuisines à ciel ouvert, de minuscules pièces et au fond d'une impasse, la famille de Souriant Sané. Jeune homme, mort à 28 ans après avoir tenté de rallier les îles Canaries en pirogue. Son oncle amène une photo de lui, encadrée, et prise le jour de la remise de son diplôme en administration des affaires. Il porte un costume bleu. Le portrait trône dans la chambre de sa grand-mère, Kadiatou.
C'est moi qui l'ai élevé. Sa maman est morte avant qu'il ne marche. Je l'ai allaité. Et quand il a grandi, je l'ai inscrit à l'école, puis au lycée, à l'université. Et je l'ai poussé pour ne pas qu'il abandonne. Je lui disais de réviser, réviser et réviser.
Unique membre de sa famille à avoir étudié, Souriant Sané incarnait l'espoir. Mais faute d'emploi, il a tenté sa chance vers l'Europe. Un scénario fréquent à Bonfi, selon El Seni, l'oncle du défunt.
Ici, les diplômés ne trouvent pas de travail. C'est ce qui les amène vers le chemin de la mort. J'appelle l'État à les aider et à aider aussi nos enfants à l'étranger. Cette fille de Bonfi est morte en Égypte après avoir appelé plusieurs fois le gouvernement à l'aide.
Dans son téléphone, la photo d'une jeune migrante, très mal en point, œil tuméfié, visage boursouflé. Nombre d'habitants à Bonfi ont un proche, malade ou disparu sur les routes de la migration. C'est le cas d'Abakar, rencontré chez lui près du port. Ses filles, âgées de 19 et 27 ans, sont parties.
Un matin de novembre 2025, on m'a appris qu'elles étaient en Mauritanie. Je ne pouvais pas y croire. J'ai crié.
La photo qu'il montre, lui, ce sont des cailloux blancs et une pancarte. La sépulture à Nouakchott de sa fille aînée et confidente, Safiatou. La Benjamine, rescapée du naufrage, a quant à elle rejoint Conakry. Présent ce jour-là chez Abakar, Eladj Mohamed Diallo collecte ses photographies des enfants en vue d'une exposition à Conakry.
On va voir les situations de ces jeunes et donner l'émotion à l'État. Parce qu'il faut qu'ils s'engagent en fait.
Cet ancien migrant dirige aujourd'hui l'Organisation guinéenne pour la lutte contre la migration irrégulière. Parmi ses actions, aider les familles démunies, désemparées et abandonnées par l'État à identifier leurs proches disparus.
Il y a des jeunes qui sont portés disparus, soit ils sont dans des prisons, il y a des jeunes qui sont devenus malades mentaux, il y a des jeunes eux-mêmes qui ont voulu la disparition aussi parce qu'ils ne veulent pas informer les parents dans quelles conditions ils vivent. Il y a des jeunes qui sont noyés, donc il n'y a aucune nouvelle. Et ils n'ont pas la possibilité de faire des recherches.
L'ONG travaille avec des relais qui fouillent les prisons et les morgues dans des pays étrangers.
Oui, la princesse, bonjour.
Fally Camara, trentenaire, a tenté la traversée pour fuir la répression en Guinée. Mais au 10e jour en mer, une fois les réserves d'eau et de nourriture épuisées, l'ambiance a dégénéré sur l'embarcation de 150 personnes. Intercepté et emprisonné en Mauritanie, il refuse de revivre l'expérience.
La nuit, il y a du vent. Le pluie tombe, on n'a pas de couverture. Avec le vent, des fois, très fort. Il faut que le capitaine arrête le pirogue. Il met l'eau.
L'encre.
Voilà, de 1h à 6h du matin. On fait comme ça, on fait comme ça.
Ça tangue de tous les côtés.
On s'est retrouvé dans une zone, l'eau tourne comme ça. Là.
Les tourbillons.
Wallahi billah, on est venu jusqu'à ce point-là. Quand la nuit tombe, on s'assoit comme ça.
Vous êtes recroquevillé là.
Tout le monde donne à Dieu, jusqu'à un petit matin.
À l'inverse de Fali, d'autres Guinéens continuent de s'embarquer sur de nouvelles routes au sud du Sénégal, encore plus dangereuses.
Reportage en Guinée signé Agnès Fèvre. La guerre au Moyen-Orient prend toute la place et il y a plein d'infos qui passent sous les radars, Guillaume Audin.
Les Verts ne sont pas morts, les Verts respirent encore et c'est en Allemagne que ça se passe où ils conservent l'un des lenders les plus importants du pays. Et oui.
Et dans la BO du monde, Cyril Sauvageau.
Et quand la musique dit beaucoup de notre monde et comment il va, c'est le nouvel album plutôt sombre, il faut le dire, de l'Algérienne Swad Massi.
Et pour l'instant, on part au Japon, imaginez du surf rock avec des instruments traditionnels, non ? Eh bien, voici Teke Teke, Yoruni. Bienvenue si vous nous rejoignez sur France Inter. Un film noir avec des yakuza dans les années 70. Teke Teke Yoruni, c'est le genre de pépite qu'adore Djoubaka, notre programmateur. Sous les radars.
Sara, Afghan Taliban say that they have launched attacks in northwestern Pakistan border region.
C'est un conflit ouvert là aussi, Guillaume Audin, mais discret et qui ne donne aucun signe d'apaisement. La guerre entre l'Afghanistan et le Pakistan s'installe dans la durée.
Alors, petit rappel géographique, l'Afghanistan et le Pakistan sont tous deux frontaliers de l'Iran. C'est donc à bas bruit que toute une région a basculé dans la confrontation armée. Celle qui a lieu entre Islamabad et Kaboul a éclaté le 26 février, deux jours seulement avant celle qui concerne Téhéran. Il y a en jeu les fameuses zones tribales, ces régions montagneuses qui séparent l'Afghanistan du Pakistan et au cœur desquelles agissent les islamistes radicaux du Tariq et Taliban, la branche pakistanaise des talibans qui cherchent sur le modèle afghan à propager le chaos en multipliant les attentats suicides. Trop, c'est trop haïste. Mais Islamabad qui reproche à Kaboul de protéger ses militants et de fermer les yeux sur leurs activités. Plusieurs provinces afghanes ont été bombardées. 600 combattants talibans ont été tués. En octobre dernier, le Qatar et la Turquie étaient parvenus à négocier un fragile cessez-le-feu. Deux pays, vous le savez, cette fois-ci trop occupés par un autre brasier.
Wir wollen hier in unserem Hauptstadtstudio in Berlin weitersprechen mit Félix Banaschak, dem Bundesvorsitzenden.
C'est une victoire serrée mais symbolique en Allemagne dans le Bade-Württemberg. Les Verts coiffent au poteau la CDU de Friedrich Merz.
Toujours délicat hein, de tirer des enseignements définitifs d'un scrutin régional, mais celui-ci fait office de thermomètre électoral. Le Baden-Württemberg, c'est le moteur industriel de l'Allemagne. C'est un land qui abrite des géants tels que Porsche, Mercedes ou encore Bosch. C'est enfin l'un des PIB par habitant les plus élevés d'Europe. Une façon de vous dire que si ce scrutin est local, il a valeur de test politique national pour le gouvernement fédéral. Ces dernières années, les conservateurs de la CDU, le parti de Friedrich Merz, faisaient la course en tête. Les sondages leur donnaient cette région tenue par les Verts depuis 15 ans. Fukushima, l'accident nucléaire. Mais en bout de course, la dynamique s'est brisée. Trois facteurs expliquent ce retournement. Une campagne terne des conservateurs qui ne font pas rêver. Un chancelier dont la popularité est en berne, 11 mois à peine après son élection, et la progression inexorable de l'extrême droite, l'AfD qui désormais en ex-Allemagne de l'Ouest et ses notables trust une part significative de l'offre électorale.
We're doing this mission to prove that we can deflect an asteroid.
La NASA, mesdames et messieurs, a peut-être trouvé le moyen de protéger la planète des astéroïdes.
C'est presque ironique, Christelle, mais pendant que les humains se font la guerre sur la Terre, et que singulièrement Washington est partie prenante au conflit, la même Amérique travaille sous les radars à sauver l'humanité. Il y a 4 ans, la NASA avait écrasé volontairement une sonde baptisée DART sur un petit astéroïde qui se dirigeait tout droit vers notre planète bleue. L'agence spatiale américaine avait tout de même pris les devants. Le corps céleste naviguait alors à 11 millions de kilomètres. Mais enfin identifié, ciblé et touché de plein fouet un objet de 160 mètres de diamètre, un gros stade de foot, à environ 28 fois la distance Terre-Lune. On peut dire que c'est quand même du grand art. Le choc a fonctionné, c'est officiel, et l'astéroïde a changé de trajectoire. C'est la première fois que l'être humain modifie la course d'un caillou dans l'espace. Très concrètement, on est donc capable de s'éviter une extinction façon dinosaure il y a 66 millions d'années. Mais comme on est malin, nous autres, les humains, on s'est quand même réservé le droit d'appuyer sur le bouton nucléaire si d'aventure ici-bas la guerre dégénère.
Quelle folie. Merci, à demain.
France Inter, le 18-20.
Et la BO du monde ce soir entre la France et l'Algérie, Cyril, avec le nouvel album de la chanteuse Souad Massi. C'est l'une des sorties du moment, un disque qui résonne tout particulièrement avec l'actualité internationale.
Oui, on n'en attendait pas moins de la part de Souad Massi. Elle a toujours fait partie de ces artistes qui s'engagent, qui sont soucieux de dire quelque chose du monde qui les entoure. Mais jamais en 25 ans de carrière, on ne l'avait connue aussi sombre et aussi révoltée. L'album s'intitule « Zagat », une expression algérienne pour dire que ça se gâte, que les choses vont de plus en plus mal au moment où la guerre fait rage au Moyen-Orient, où Donald Trump bouscule l'ordre mondial, où la brutalité du monde nous saisit chaque jour davantage. Difficile de rester optimiste. La musique de Souad Massi se teinte donc d'une noirceur nouvelle. La tonalité est plus rock, les guitares plus dures, un contraste frappant avec la musique folk, acoustique qui l'a rendu célèbre au début des années 2000, comme si Souad Massi laissait parler sa colère. Et pour que sa musique sonne autrement, elle est allée chercher l'aide d'un guitariste anglais, Justin Adams, connu pour son travail avec Robert Plant de Led Zeppelin ou avec les Touaregs de Tina Riwen.
En prise donc avec l'actualité, Souad Massi évoque notamment le conflit au Congo.
Avec ce titre, Congo Connexion, l'occasion de remettre en lumière un conflit sous les radars, mais particulièrement meurtrier, dont les civils et les enfants notamment sont les victimes collatérales. Un air de blues africain en duo avec le rappeur d'origine congolaise Youssoupha.
Il y a cette musique qui tourne et qui tourne et qui tourne, les personnes qui l'écoutent et nos vies, qu'est-ce qu'elle coûte. Cette musique qui tourne et qui tourne et qui tourne, les personnes qui l'écoutent et nos vies, qu'est-ce qu'elle coûte.
سبع عجائب
C'est magnifique. Et au moment où les relations diplomatiques entre la France et l'Algérie sont au plus bas, Souad Massi s'efforce de faire entendre une autre voix.
Depuis qu'elle a quitté Alger pour Paris à la fin des années 90, Souad Massi a toujours cherché à jeter des ponts à sa manière entre les deux rives de la Méditerranée vis-à-vis de son pays natal. Elle a souvent pris position, elle a pointé du doigt les dérives du régime et soutenu la jeunesse algérienne au moment du Irak, le grand mouvement de contestation de 2019. À l'époque, ce titre est écrit contre le président Bouteflika avait marqué les esprits. Pour ses prises de position, Souad Massi n'est plus la bienvenue en Algérie. Elle n'a plus joué là-bas en concert depuis plus de 10 ans, mais elle ne désespère pas d'y retourner. Et aujourd'hui, elle se désole de l'état des relations entre les deux pays. Comme un vieux couple appelé à vieillir ensemble, il faut apprendre à se reparler, dit-elle. Et comme beaucoup d'autres franco-algériens, elle exprime par sa musique le tiraillement entre ces deux identités. Avec cette chanson, D'ici, de là-bas, où elle partage cette fois le micro avec Gaël Faye. في راسي حكاية فايدة وفي أرضك نوز ردة بين قدام باش نولي حر أنا من نوم الهيل مكتوب رحيتي أعطيني ربي يعطيك زهر Enfant des deux rives, j'ai le cœur qui tangue. Fils du vent, jamais jetteras l'encre. Là où je vais, mes racines, je plante ma bouche et l'écho de toutes les langues. D'ici de là-bas, je pars, je reviens, le destin d'une vague. Dessiner le large, les couleurs baillent à la soif d'assiette. Le cœur qui bat, qui parle et qui s'éveille. Au goût du sel de mer et du soleil. Ton sang, le mien, rouge pareil. Ton sang, le mien, oui, son rouge pareil. Je suis ce que tu me donnes, l'ignorance ou un morceau de pain. Des mémoires secrètes en nous dorment et résonnent. Nos ancêtres se tiennent par la main.
Voilà, Cyril, et vous nous rappelez le titre de cet album puissant et nécessaire.
De Souad Massi, l'album s'appelle Zagat. Il y a eu aussi toute une tournée ce printemps qui passera notamment par le Théâtre du Châtelet à Paris le 18 juin prochain.